sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Audio et Boris Spineau. Prise de sang assurée ce soir par Julien Douminc, réalisation Daniel Finot. Ce soir, Corinne Rondeau et Elisabeth Franck Dumas se font face à notre affiche « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky au musée d'Orsay ». A cappella, Bertrand Lavier à la galerie Almin Resch. Et puis, nous évoquerons aussi Michelangelo et Sébastien à la National Gallery de Londres. Et puis, Alighiero Boetti à la galerie Tornabuoni à Paris. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour le deuxième épisode de Trump et les musées. Au lendemain de l'annonce d'un budget qui sabre très largement dans les budgets de la culture. Enfin, on verra ça plus précisément. Ce soir encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de dispute, des invitations pour l'exposition Images à la Sauvette à découvrir jusqu'au 23 avril à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Rendons-nous tout d'abord au musée d'Orsay pour y découvrir l'exposition « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky » dont Guy Cocheval, Catherine Loknan, Isabelle Morin-Loutrel et Béatrice Avanzi sont les commissaires. Une exposition qui est réalisée en partenariat avec l'Art Gallery of Ontario de Toronto. Elle a été présentée cet hiver. C'est vrai que les paysages impressionnistes ont été le sujet de nombre d'expositions. C'est moins le cas pour les symbolistes. Et cette exposition d'Orsay entend réparer ou combler cet écart en montrant notamment, et on y insistera, le lien entre la production plastique et la grande vague de mysticisme de la fin du 19e siècle. Allons-y, entrons dans le musée d'Orsay à la suite de Corinne Rondeau.
Mon Dieu.
Bah oui.
Ah, voici une exposition quand même qui nous offre une belle, des petits morceaux d'une, des séries de Monet. C'est le début de l'exposition. Les cathédrales, enfin ça commence plutôt par les meules, les peupliers, les cathédrales et les nymphéas. Alors on a des petits échantillons évidemment parce que c'est que le début de l'exposition. Alors on est invité effectivement à une sorte de promenade quand même dans la nature, puis le paysage qui est, que le titre nous, a, nous donne tout de suite, on est en terrain connu on va dire. Et puis on a d'autres tableaux qui ouvrent la première salle d'exposition, qui nous offrent du néo-impressionnisme avec Cross, notamment les Îles d'Or, qui est un très beau tableau. Donc on a avance comme ça avec du Odilon Redon, donc le symbolisme s'invite peu à peu. Et puis avant de faire un retour sur le côté pour aller sur la salle et la poursuite de l'exposition, il y a une salle, un peu un cul-de-sac, dans lequel là on est accueilli par une femme allongée, c'est la Madeleine au bois d'amour de Maurice Denis. Une femme qui est allongée, pour autant elle ne dort pas, peut-être rêve-t-elle au milieu d'une forêt, puisque cette salle s'appelle Les Bois Sacrés, qui est le titre aussi d'un tableau qui est dans l'exposition de Paul Sérusier, l'incantation au bois sacré. Et là, on a, on va dire, une série de tableaux de forêt avec des troncs qui vont des troncs rouges jusqu'aux troncs verts. On va de Paul Sérusier, donc avec ses bois rouges, on passe par des arbres jaunes d'un tableau dont j'ignorais l'existence, de paysage décoratif de Jan van der Kade. Et donc là, on se dit, finalement, on est dans un parcours où les visions se donnent aux spectateurs. On nous donne une promenade, dont le terme de mystique est quand même un petit peu fort. Vous avez d'ailleurs employé le terme de mysticisme qui me paraît beaucoup plus juste, pour ne pas trop tromper quand même.
C'est plus raccord avec
C'est plus raccord avec ce qui se fait.
Et les mystiques et les mysticismes,
c'est pas la même chose. Et effectivement, dans cette dernière salle, on voit dans le Meurice Denis, par exemple, cette forêt de troncs verts, un groupe de personnages qui ressemblent un peu à des moniales, mais peints en rose léger. Et puis une femme seule, ce que pourrait être une femme seule, et un ange comme une sorte de reste d'une annonciation, quelque part. Bon. Et puis ensuite, on passe dans les autres salles, on continue en se disant, on est dans une promenade du paysage. Et d'ailleurs, la scénographie, avec des portes qui sont arrondies, douces, comme ça, nous disent, vous rentrez dans un rêve, vous rentrez dans une... avec des tableaux qu'on ignore. Il y a un très beau tableau d'un paysage blanc de... J'ai oublié le nom, évidemment, bien sûr.
Vous allez le retrouver.
Puis ensuite, on rentre dans la salle où le symbolisme va se présenter de manière beaucoup plus certaine, avec la lutte de Jacob et l'ange qui est en face sur un mur tout seul, mais qui est un mur peint en violet, je crois, qui est le semeur de Van Gogh et dont le soleil jaune explose littéralement la vision du tableau. Il est très très fort, je crois que j'avais jamais vu ce tableau dans ces conditions-là. Absolument, d'une très dringue force. Alors là, c'est un dialogue qui annonce, là, pour le coup, littéralement, d'autres commentaires, parce que là, l'exposition, ensuite, va ouvrir des tableaux avec des titres qui rappellent Jacob, qui rappellent... Alors, la lutte de Jacob et de l'ange, c'est Jacob qui va lutter avec Dieu, en fait, la nuit, et son nom va être transformé, puisqu'il va être marqué par cet ange qui est Dieu, et il va prendre le nom d'Israël. Donc, la dimension d'une sorte de conversion de soi... dans la lutte avec quelque chose qui est la nuit, ça annonce déjà les salles de la nuit et en même temps ça annonce la dimension plus mysticiste avec des Christs notamment. Donc là, peu à peu, le parcours s'organise autour de d'une dimension plus proche du titre. Mais par ailleurs, quand on ne connaît pas l'histoire de cette période-là, on est un peu embrouillé. C'est-à-dire que cette exposition, pour moi, c'est soit je la fais sans rien connaître, et auquel cas je participe à une promenade et je vais traverser des époques. Mais par ailleurs, il y a un symptôme que j'ai oublié avant d'aller vers Van Gogh et Gauguin, à savoir qu'il y a un petit Mondrian, un pommier, et un Kandinsky de 46 ou 42, je crois, qui est une forme très abstraite. Et on se dit, pourquoi dans un retour d'expo on a déjà la fin de l'expo, c'est de Monet à Kandinsky, et on se dit, est-ce qu'on va vers le travail formel de l'abstraction, ou bien alors on va avoir un discours sur le mysticisme? Et si c'est un discours sur le mysticisme, il faut avoir lu quand même beaucoup les commentaires de cette époque-là. Albert Aurier, mais aussi Gustave Geffroy, qui a écrit sur Monet. Aurier, on le connaît beaucoup pour le texte qu'il a écrit sur la lutte de Jacob avec l'ange. Et on sait que Aurier aura été un des critiques de l'époque pour dire « il faut arrêter avec l'impressionnisme ». Il faut rejeter l'étiquette impressionniste, rejeter le sensible, cette peinture qu'on croit être que de la sensation, parce que dans toute matière picturale, d'une certaine manière, il faut appeler l'idée. Il y a une lecture platonicienne. Et on voit bien qu'en fait, le parcours de l'exposition s'organise à travers des interprétations de l'époque dont Gustave Geffroy fait déjà l'objet avec Monet, en disant que Monet est le plus grand poète panthéiste. Et vous comprenez que nous, on n'a pas le spectateur lambda n'a pas la lecture de cette interprétation du 19e siècle sur ces tableaux. Ce qui est un problème, mais qui est un problème aussi du commissariat, qui me semble être une lecture et une interprétation de la lecture qui est faite de ces tableaux-là. C'est pour le coup, pour moi, si je regarde du point de vue de l'histoire de l'art, des commentaires de l'époque, l'exposition m'apparaît très retorse, voire limite très énervante de mon point de vue. Soit effectivement parce qu'il y a des tableaux absolument formidables qu'on n'a jamais vus, qui peuvent être simplement une balade, une promenade, qui pour le spectateur passerait de l'impressionnisme au symbolisme jusqu'à une abstraction cosmogonique, on va dire. Mais je reviendrai parce que pour moi, il y a vraiment un gros souci interprétatif de cette exposition.
Vous reviendrez, mais bien sûr. Corinne Rondeau. Mais on va savoir quelle voie ou quel chemin a pris Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors... C'est-à-dire que j'ai un petit peu le même avis que Corinne Rondeau, ce qui, avec des conclusions différentes, mais pour moi, c'est un parcours très fragmenté. Et ça m'a intéressé de lire l'essai dans le catalogue de Catherine Loknan, qui refait un petit peu la genèse de l'expo, où on se rend compte que ce qui l'a vraiment intéressé, elle, au début, ce sont les échanges entre les peintres du Nord et les peintres du Canada. À quoi s'est ensuite rajoutée la préoccupation symboliste française, les Nabis, Van Gogh, Gauguin. À quoi s'est ensuite sans doute rajoutée, on comprend entre les lignes, peut-être dans le dialogue avec Orsay, les impressionnistes. Mmh. Et en fait, je trouve que finalement, ça donne une expo assez fragmentée. On croit, et là, je suis entièrement d'accord avec Corinne Rondeau, on croit qu'on va faire ce trajet. Et moi, qui est un trajet que je trouve magnifique, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Mais je dirais tout le début de l'expo qui est le passage de l'impressionnisme à l'abstraction. Alors là, qui est fait très rapidement, hein, paf, tout à coup, on saute dans Kandinsky, mais c'est vrai que la manière dont sont présentées ces toiles, par exemple, la manière dont sont présentées côte à côte les quatre portails de la cathédrale de Rouen, plutôt que de s'intéresser justement, ou en tout cas vraiment là, le mouvement premier, je trouve, du spectateur, sans rentrer dans des débats de l'époque sur mais non, il faut arrêter le sensible, l'impressionnisme, je trouve que ce qu'on voit quand on voit ces quatre portails côte à côte, c'est qu'il n'y a personne. C'est un univers sans l'homme, vide, déserté. Je trouve ça absolument vertigineux. Moi, je les avais jamais vus comme ça, ou en tout cas, ça m'avait jamais fait cet effet-là. Et de les mettre dans ce contexte et accrocher de cette manière-là, tout à coup, on se dit, voilà, il y a une espèce de vide ontologique, de vertige que je trouve très intéressant. Alors, cette dilution de l'être dans le paysage qui a donné une dilution des formes, c'est pas forcément une idée nouvelle. On en avait parlé récemment quand j'avais évoqué le livre de Thomas Schlesser, L'univers sans l'homme. Mais là, elle est très bien mise en forme. Je trouve, c'est une promenade magnifique parce que c'est un chef-d'œuvre après l'autre. Pareil pour les symbolistes, on arrive avec leur traitement du mystique. Alors mystique, c'est quand même un terme qui est jamais vraiment très clairement défini, ni dans l'expo ni dans le catalogue. Bon, alors la contemplation qui mène à de l'exaltation, la dilution de soi dans le paysage, mais en même temps, on se rend compte qu'il y avait des préoccupations religieuses à côté desquelles on passe, et d'ailleurs qui sont parfois un petit peu bons. Peut-être oiseuse même, je ne sais pas. Alors les symbolistes, pareil, il y a encore un mouvement, il y a une vraie démonstration là dans les salles qui est ce rejet du naturalisme, ces terres rouges magnifiques, même dans le Gauguin... Il faut que je regarde mes notes tout à coup, la vision après le sermon, on a l'impression qu'il y a plusieurs points de vue différents dans le même tableau, c'est-à-dire qu'il a été peint de différents points de vue, il y a une espèce de fragmentation comme ça, enfin, ce tableau est extraordinaire, on le regarde comme jamais, et puis après pour moi ça s'effondre un petit peu parce qu'en fait on a vraiment le sentiment de participer à une démonstration et tout à coup on passe de la démonstration à la déclinaison, où en fait c'est maintenant on va prendre cette idée puis on va la décliner dans le Nord. Alors, il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, les paysages tout vides de Bruges, de Knopf, qui rappellent justement ce vide intersidéral qu'on peut ressentir devant les portails des cathédrales de Monet. Mais voilà, il y a le groupe des Sept dont on fait grand cas, qui sont ces peintres canadiens. Bon, j'avoue qu'à part, Émilie Carr et Lorraine Harris, je trouve pas ça passionnant. J'avoue. Enfin, en tout cas, j'y suis pas très sensible. Bon, alors, on décline le Nord, le Canada. La nuit, et en fait la démonstration s'arrête et elle reprend tout à coup, l'expo retrouve un peu de piquant dans sa toute dernière salle quand on décolle dans le cosmos, il se passe à nouveau quelque chose, il y a des magnifiques Georgia O'Keeffe, il y a ce soleil de Munch, j'avais presque l'impression que ça y est, on passait dans la science-fiction, il y a vraiment un moment que je trouve passionnant, ce paysage rouge d'O'Keeffe. Moi, ça me faisait penser aux nouvelles martiennes de Bradbury. Enfin, on décolle, on n'est plus dans la conscience avec laquelle on avait frayé jusqu'à maintenant. Mais entre-temps,
mais c'est la fin de l'expo aussi.
C'est la fin de l'expo. Et entre-temps, il y a pas mal de salles. Je me demande si on n'est pas à la limite. Enfin, les paysages de la Première Guerre mondiale, je ne suis pas sûre de comprendre le propos. Enfin, voilà, il y a tout un passage au milieu que je trouve moins intéressant. Il n'y a pas vraiment de révélation. Il y a des curiosités ou des découvertes. Émilie Carr, c'est vrai que il y a quelques toiles très intéressantes. Mais voilà, pour moi, on a l'impression que ça a été un petit peu fait de briques et de broc comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a deux musées, quatre commissaires. Mais c'est pas toujours très cohérent.
Corinne Rondeau.
Alors, moi, je suis sortie très énervée de cette exposition, faut le savoir, parce que le parcours s'organise comme une promenade, c'est vrai. Puis on a les paysages où le dialogue des pays, les artistes scandinaves et canadiens fonctionne assez bien, notamment avec du Hodler qui est suisse par ailleurs, où on voit des artistes qui ont beaucoup regardé, effectivement, parce qu'il y a eu une exposition aussi en 1913 au Canada. Ils ont vu ces paysages scandinaves. Il y a aussi les paysages d'Hodler qui sont très connus. Il y a du Willumsen, une très belle pièce, assez rare, qui est très étrange et qui renvoie effectivement à toute une inventivité. Il y a par exemple, vous citiez tout à l'heure Lorraine Harris ou Émilie Carr. C'est vrai qu'ils ont une forme très de très grande puissance. Il y a un paysage avec des sapins verts, un ciel jaune et de la roche qui est turquoise et rose. Donc c'est vrai qu'il y a une étrangeté de la. Et puis ça tape vraiment à l'œil à côté de quelque chose qui est plus rond chez les Scandinaves. Donc ils ont bien regardé. En même temps, ce dialogue s'organise effectivement sur la contemplation, le travail plastique. Alors là, je me suis dit, il retrouve quelque chose de Kandinsky sur la couleur, l'abstraction, comment le paysage peut devenir quelque chose. Il y en a un autre peintre, Frédéric Varlet, par exemple, c'est un peintre entre du Hodler, alors là, c'est du Hodler et du Munch. Et c'est très étrange, mais à la fois, il y a la ligne qui est nette, et en même temps, il y a une matière un peu, il y a un magma qui se passe dans la peinture. C'est très étrange et c'est très stimulant aussi de découvrir d'autres peintures. Et puis, il y a du Strindberg dans la même pièce. Et là, c'est le Strindberg qui cherche, en fait, à faire le recto verso. C'est une vague infinie, et cette vague infinie au verso annonce la nuit de la salle suivante, où là, on a encore des vues de Stockholm, par exemple, qui sont présentes. Il y a des tableaux d'Émilie Carr qui annoncent déjà du O'Keeffe. Je me suis dit, on va voir du O'Keeffe dans l'expo, c'est sûr, parce qu'il y a une forêt de Colombie-Britannique qui est très étanche, un dedans et un dehors. Vous avez deux petits formats de Tom Thompson, dont quand vous vous. C'est une espèce de travail de matière incroyable sur un tout petit format. Quand vous vous reculez, d'un coup, il y a un rouge qui s'accroche à la matière. C'est assez beau, je dois dire. J'ai trouvé du plaisir à voir ces peintres que je ne connaissais pas. Puis ensuite, on rentre dans la salle de la nuit, et là, j'ai commencé à avoir toutes mes inquiétudes qui se sont éveillées. Puisque cette nuit, en fait, alors on tente de rythmer à travers Bruges. Alors, Bruges, évidemment, vous entendez Bruges, la mort de George Rodenbach, par exemple. Ouh là là, il y a de l'illusion. Puis en face de ces tableaux de Knopf de la nuit à Bruges et des autres nocturnes, dans le Van Gogh, hein, ces deux amants comme ça. Bon, bref, ce que les deux amants de Van Gogh appellent l'histoire de George Rodenbach, hein, cet homme qui est à Bruges pour vivre son deuil, puis il va découvrir une femme, donc qu'il court après, mais évidemment, c'est l'illusion, c'est le drame. Et en face, vous avez un portrait de femme, l'aveugle. Vous dites, oulala, leur nuit leur apporte le pire. Vous savez, alors comme dans la première salle des Bois Sacrés, il y avait la correspondance de Baudelaire, on a envie de leur rappeler un autre poème, un autre vers de Baudelaire, mais que cherchent-ils ces aveugles à voir dans le ciel? Ou que cherchent-ils dans le ciel à voir ces aveugles? Et on se dit, mais bon, alors qu'est-ce que c'est que cet aveuglement qui nous tombe sur la tête, pendant qu'en fait il y a des rencontres, des dialogues formels qu'on nous propose, qu'effectivement il y aurait peut-être un Monet qui serait un mystique, puisqu'en fait quand même l'introduction de la commissaire canadienne est en train de vous dire, j'ai voulu retrouver mes racines catholiques d'irlandaise, et donc je suis rentrée dans une cogitation mystique, j'ai rencontré mon vieux prof de thèse, qui m'a dit, et je lui ai dit, alors mon nez mystique, ah, bien sûr mystique, avec un verre de champagne à la main. Là vous dites, bon, moi je veux bien du côté vulgariste, hein, je veux dire, ok, on va parler à tout le monde comment c'est, on a traversé une expérience. Le problème c'est qu'il y a de la religiosité dans l'accrochage, parce que quand on on arrive à vous êtes aveugle et que vous avez un peintre que vous dont vous ignorez absolument qui il est, Charles-Marie Dulac, il sait qu'il est atteint d'une maladie grave. Il va se convertir aux franciscains. Il est chez les franciscains. Mmh. Et vous avez quatre tableaux, je crois, qui n'ont aucun intérêt, sauf que ce sont des vues d'assises avec un soleil qui se lève. Et là, vous dites, hop, 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 la lumière. Évidemment, quand vous lisez Aurier, quand il appelle l'idée, l'idéiste, qui dit non pas impressionnisme, mais symboliste, idéiste, il dit, après tout, de toute façon, les spectateurs n'ont jamais, ne jugent jamais que par des noms. Alors, un nom de plus ou de moins, qu'importe. Ajoutons donc, idéiste. Ok, très bien, Gauguin, idéiste. Ça veut dire qu'on va chercher l'idée. Alors évidemment, dans la peinture, dans la dimension platonicienne, il y a l'idée du soleil, la lumière, l'idée avec un grand I. C'est pas chercher l'idée. Alors vous êtes mystique ? Ouais, j'ai une idée du divin. Donc là, j'ai juste envie de tomber par terre. Sauf que dans la salle qu'évoque, en disant un peu oisivement, cet accrochage de la Première Guerre mondiale, là, je vous dis, le malaise, mais le malaise total. Vous avez quand même le Frédéric Varlet, qui nous fait une sortie des chambres à gaz de 14-18, des tranchées. Et en face, vous savez ce que vous avez ? Vous avez un Chagall. Alors, effectivement, Chagall, pendant la guerre, a été cloîtré dans le village dans lequel il est. Mais quand même, vous avez un soldat qui sort, vous avez un juif errant qui vole, et après, vous avez René Gonchild, dont vous ne savez pas ce qu'il vient de faire. Et puis ensuite, vous avez des tableaux sur la guerre et la destruction. Des tableaux qui cherchent l'abstraction. Et alors, on vous dit, attendez, si vous êtes dans le symbolisme, si vous êtes dans le mysticisme, vous n'êtes pas, comme le disait Kandinsky, vous êtes dans la nécessité intérieure, c'est-à-dire pas de contingence extérieure. Et là, d'un coup, la guerre, c'est la contingence extérieure absolue qui aurait des mots à dire sur la guerre. Alors que j'ai l'impression que tout de même, Kandinsky a découvert les processus de l'abstraction bien avant la guerre de 14-18. Bon, peu importe, hein. Après tout, pourquoi pas ne suivre. Et là, quand même, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes entre Charles-Marie Dulac, avec assise, oh mon Dieu, le soleil se lève, en face, vous avez quoi ? Vous avez une croix noire de O'Keeffe. Et là, vous dites, non mais attendez, il faut que je mette une bure pour voir l'expo. Et j'arrive dans la dernière salle, donc de la cosmogonie absolue. Et alors là, c'est le pompon absolu. C'est le pompon parce qu'on a le semeur de Van Gogh, qui était vraiment une sorte de pulvérisation de la vision. Et à la fin, vous avez un semeur figuratif. Ok, c'est de la période. J'ai oublié le nom de l'artiste. Mais c'est le semeur d'univers. Donc en fait, on vous demande de contempler le divin. Parce que moi, j'ai entendu les commissaires qui disaient, vous savez, nous, on touche un sujet quand même d'actualité. Et là, il y a un gros souci.
Elisabeth Franck Dumas, après cette sortie de Corinne.
Comment répondre à tout ça? Sur Charles-Marie Dulac, je suis entièrement d'accord. C'est pas le seul, hein, hélas, dont les toiles n'ont pas grand intérêt. C'est vrai que la lecture des catalogues de l'expo rend extrêmement perplexe, parce que ça tire vraiment énormément sur la religiosité, et je trouve plus que ne le faisait, ou en tout cas que ma visite de l'expo, c'est vrai que j'ai pas vu tout ce que vous y avez vu, et notamment pour moi, chez O'Keeffe, j'en avais une interprétation différente qui était plus que la croix était un empêchement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un élan vers le magnifique paysage qui est derrière, ce rapport un peu panthéiste comme ça à la nature, ou transcendantale, je crois qu'elle avait beaucoup lu Emerson et compagnie, et ce qui l'empêche d'y accéder, c'est justement cette croix. Donc pour moi, c'était plus un tableau critique. Après, pour le reste, c'est vrai que la Première Guerre mondiale, on comprend pas ce que ça fait là. Le Chagall, qui date de 1937, non plus, qui tombe là. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'elle est, elle est. J'ai eu le sentiment qu'elle était faite de briques et de brocs, et plutôt que de m'apprendre quelque chose ou de me dessiller le regard, le catalogue m'a plus fait me dire bon, on patauge un peu quand même.
Et qu'en fait, oui, cette lecture, chacun y verra par lui-même. Mais j'ai un sentiment un peu partagé entre vous. Moi, j'ai voulu faire la promenade. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une promenade qui m'agressait souvent. On parlait de violence hier soir dans l'émission de cinéma. Et je trouve qu'il y a des salles qui sont un peu violentes, mais d'une violence qui n'est pas une violence d'un choc esthétique ou d'un choc intellectuel ou de recherche formelle, mais qui est plutôt quelque chose de malaisant, comment dit-on ? Oui, désagréable, ouais. Quoi. Une expérience... alors qu'on y voit par ailleurs, et vous les avez citées l'une et l'autre, des toiles... par ailleurs magnifiquement accroché pour certaines, il y a le sentiment quand même qu'on veut nous dire quelque chose qu'on n'a pas forcément d'abord compris, ou envie de comprendre, ou on n'a pas forcément envie d'adhérer à quelque chose qui est très finalement coercitif, finalement, même dans le parcours et dans ce qui voudrait nous faire penser.
Puis on change de direction. Enfin, voilà, on fait les deux, trois premières salles, puis tout à coup, paf, virage.
Oui, c'est là qu'on a le sentiment d'être un peu manipulé par l'exposition.
D'être lâché.
Ou agi ou lâché, je sais pas.
Je pense que ça tient vraiment à une interprétation de la commissaire principale de l'exposition. Ce qui est dommage, puisqu'il y a vraiment une pensée des critiques de l'époque la dimension du mysticisme.
C'est pas ça qui est traité.
C'est écrit noir sur blanc dans le texte d'Aurier, il y a aucun problème.
C'est pour ça que le terme de mystique employé dans le titre nous donne en fait la vraie clé. Parce que c'est pas le mysticisme, je pense que ce qui l'intéresse, c'est le paysage mystique.
Mais sauf qu'elle emploie dans ses textes, elle emploie mysticisme, parce qu'elle emploie la religiosité pour ne pas faire appel à une religion particulière. Alors, qu'il y ait de l'idée, que l'idée soit un divin, ça veut pas dire la religion, vous comprenez? C'est ça, parce que quand même, il y a eu tout un effort pour abstraire du paysage des formes. Pourquoi, dans la première salle, y a-t-il un Kandinsky des années 40 qui est l'aboutissement du travail de l'abstraction? Parce que moi, si on m'avait proposé un parcours de peinture à travers le paysage, et que je vois cette matière devenir autre chose, qui est donc de l'abstraction, mais qui est aussi de l'idée. Quelle idée je me fais de la peinture? Quelle est la traduction, le déchiffrement? Je veux dire, Baudelaire utilisait le terme de hiéroglyphes aussi. Les peintres sont des traducteurs, des déchiffreurs. C'est-à-dire qu'ils aient leur matière, c'est une chose. Qu'ils se posent la question du divin, c'est vrai, c'est dans leur texte et dans leur correspondance. Mais par ailleurs, là, il y a une lecture. C'est comme si il y avait une lecture du commissariat qui était l'interprétation comme les interprètes du 19e et du début du 20e l'avaient fait. Le problème, ça fait deux strates. Et quand vous en avez un peu sous la godasse, vous dites, mais de quoi on me parle ?
Au-delà.
Mais il y a de très beaux tableaux, hein.
Mais oui,
faut pas s'empêcher d'aller les voir.
Par ailleurs, au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky, c'est le titre de cette exposition Musée d'Orsay, qu'on peut voir jusqu'au 25 juin. Et puis donc, effectivement, un catalogue édité par le musée pour l'occasion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
À suivre dans la dispute, Bertrand Lavier, Michelangelo, Sebastian Alighiero et Boetti. Mais tout de suite, le petit salon de Lucille Comeau. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, on va parler de Bertrand Lavier tout à l'heure, sera avec Mickey, mais là c'est Donald au musée, épisode 2.
Oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais de Trump et des réactions de certains musées à son élection. Je vous racontais notamment qu'il avait repoussé sa première visite à un établissement artistique et avait envoyé sa femme à sa place. En l'occurrence, il s'agissait du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Il a fini par y aller le 21 février dernier. Il a parlé là-bas de ses ambitions diverses, un peu de tout, sauf de culture. Seulement une allusion à la fin. En prenant à partie le directeur Lonnie Bunch, il a déclaré « Ce musée a été réalisé avec de l'amour et beaucoup d'argent. N'est-ce pas, Lonnie? Beaucoup d'argent, on ne peut pas y échapper. » Apparemment, c'est exactement ça que cherche Trump, échapper à la culture, puisque le 16 mars dernier, son administration a dévoilé une proposition de budget pour l'année fiscale 2018 dans laquelle la culture représente 0%. Tout simplement, Donald Trump propose que soient supprimées les 4 agences fédérales qui gèrent la politique culturelle américaine, une coupe de 971 millions de dollars. Parmi ces institutions, la NEA, National Endowment for the Arts, est la plus importante et la plus connue. Elle avait été créée en 1965 sous l'impulsion de Lyndon Johnson, déjà à l'époque critiquée par la partie la plus droitière du Parti républicain, plus tard fustigée par l'administration Reagan dans les années 80. Alors, il faut préciser que la NEA représente une infime partie du budget mis en œuvre par les institutions culturelles. Certes, nous sommes aux États-Unis, les financements publics représentent une toute petite part du financement global d'une exposition dans un musée, par exemple. Néanmoins, sa disparition serait catastrophique pour deux raisons pratiques au moins. D'abord, obtenir une subvention de la NEA, même infime, c'est pour beaucoup d'institutions culturelles, surtout les plus petites et les plus fragiles, un sésame nécessaire à l'obtention de fonds privés. C'est en quelque sorte un certificat de qualité indispensable pour faire appel ensuite aux fonds privés. Deuxième raison, la NEA héberge en son sein un programme qui s'appelle le Arts and Artifacts Indemnity Programme. C'est un programme qui est une sorte de garantie, en fait, offerte par le gouvernement qui permet à un musée qui souhaite emprunter des œuvres pour organiser une exposition de s'exonérer des frais d'assurance. On sait, ce sont des frais énormes qui constituent souvent une grande partie du budget de montage d'une expo. Alors là, ça ne concerne pas seulement les petites structures fragiles, mais véritablement tous les établissements américains. Par exemple, Thomas Campbell, directeur du Met, déclarait dans le New York Times le mois dernier qu'une exposition prévue consacrée à Michel-Ange aurait coûté 2,4 millions rien qu'en assurance, une somme que, je cite, « même notre musée, le plus grand musée d'art de la nation, ne pourrait se permettre de débourser seul ». Une catastrophe, donc, tous les acteurs de la vie culturelle américaine sont sur le pont. Heureusement, il y a fort peu de chances que ça arrive. Le budget doit passer devant le Congrès, le Parti démocrate et une bonne partie du Parti républicain voteront contre une proposition qui a de toute façon même peu de chances d'être présentée en l'état. Il n'en reste pas moins que ce type de geste spectaculaire est d'une grande violence symbolique. De quoi est-il le symptôme ?
Alors, notre spécialiste des États-Unis, Elisabeth Franck Dumas, va pouvoir peut-être nous livrer un premier éclairage.
Sur le symptôme Trump, son désintérêt total de la culture. Alors, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que ça se joue même pas à un niveau idéologique. C'est-à-dire que ça soit sous Reagan ou ensuite dans les années 90, où les États-Unis ont été secoués par ce qu'ils appelaient les guerres culturelles, les culture wars, où pareil, on avait menacé de couper les financements du National Endowment for the Arts. Là, et c'était vraiment sur des raisons idéologiques. On n'aimait pas le travail de certains artistes. Giuliani avait menacé de couper les subventions
de
la ville. Voilà, pardon, Rudolph Giuliani, le maire de New York, avait menacé de couper les subventions du musée de Brooklyn parce qu'il n'avait pas apprécié l'Expo Sensation. Il y a eu le musée de Cincinnati aussi, 10 ans plus tôt, lors de l'Expo Mapplethorpe. Enfin, là, on est arrivé vraiment au degré zéro. Je sais pas ce qui est mieux, ce qui est pire. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. Il n'y a qu'une justification économique. Je pense qu'il y a sûrement aussi une mesure de rétorsion. On voit combien l'homme est susceptible et revanchard. Et le milieu de la culture, c'est massivement soutenu Hillary Clinton. Donc voilà, le symptôme, c'est la catastrophe Trump. Après, vous avez raison de pointer, c'est mal connu cette histoire d'assurance, mais c'est vrai que la NEA est un soutien majeur pour les grands musées lorsqu'ils montent des expos, et pour toutes les petites structures, c'est crucial. C'est pas seulement que c'est un gage de qualité pour faire appel à des fonds privés, c'est que dans les statuts de la NEA, il est inscrit que si vous voulez recevoir des subventions, il faut que vous apportiez, c'est une manière, entre guillemets, de maximiser la subvention, il faut apporter une subvention privée ou régionale ou que sais-je qui soit à la hauteur de celle de la NEA, ce qui fait que si la NEA s'engage à vous donner, j'en sais rien, 10 000 dollars, vous aurez 20 000 dollars au final. Ce qui, pour des toutes petites structures, parce que c'est très bien réparti sur l'ensemble des États-Unis, ils avaient été critiqués, encore une fois, dans les années 90 comme étant un espèce de symptôme des élites côtières qui soutenaient des institutions et des programmes qui n'intéressaient que les élites des deux côtes. Bon, maintenant, ces fonds sont extrêmement bien répartis sur l'ensemble du pays, et je pense que c'est pour ça que, y compris certains républicains, ne voteront pas pour, puisque sinon, ils se retrouveront, eux, avec la charge de soutenir ces endroits, ou alors de les fermer. Donc
de les fermer, parce que ce mécanisme de domino, il fonctionne en France, on en parle régulièrement, hein, sur dès qu'une des collectivités territoriales se désengagent ou l'État se désengage, l'autre se désengage. Enfin, il y a comme ça un phénomène qui fait que si un financement est retiré, les autres se retirent et que donc les structures, pas seulement les petites, hein, mais sont typiquement en danger dans ce genre de manipulation. Corinne Rondeau ?
Que vous dire ? Ça n'a pas été voté, ça.
Non, mais en plus, d'accord, ça a même peu de chances de passer en l'état devant le Congrès, parce que c'est pas possible, enfin.
Pour les raisons. Pourquoi en parlons, nous? Non, mais c'est, de toute façon, voilà, il faut parier sur la réalité aussi des votes, sur l'abstention ou le refus de certains républicains de choses qui sont aberrantes de notre point de vue. Après, si les choses sont votées en l'état, dans cette situation dramatique, au niveau culturel, je pense qu'il va falloir que les gens inventent des choses, parce que s'il y a des structures économiques et financières qui sont organisées par rapport justement au fait de pouvoir donner, de recevoir autrement, ça risque d'être très compliqué pour les petites structures, parce que c'est ça qui est le plus grave, en fait. C'est pas, non pas les grandes structures, mais les petites structures, parce que c'est celles qui développent le plus de projets à risque, c'est parce que c'est aussi tout le tissu culturel de région. Enfin, c'est ça qu'il faut pas négliger, donc. Il faut d'abord attendre les votes, parce qu'on peut parler pendant des heures sur le fait que Trump est un homme venu de Mars. Vous parlez de Ray Bradbury tout à l'heure, Elisabeth.
Oui, mais c'est vrai que l'annoncer, même si effectivement il y a peu de chances que ça arrive comme ça, c'est un acte politique de dire moi je veux que la culture ait zéro dollar et qu'on supprime absolument des lignes budgétaires.
C'est
toute
pas politique,
aide.
Je pense que c'est de la bêtise pure.
Oui,
non,
mais c'est... ça c'est une interprétation. Lucille Comeau.
Moi, je suis pas sûre que ce soit pas politique. Moi, je pense que ça allait et que ce soit volontaire ou pas, n'enlève pas le contenu politique de ce geste-là. Et je trouve que ça résonne assez aussi étrangement chez nous en ce moment, alors qu'on est en pleine campagne. Bon, évidemment, les budgets proposés ne sont pas à 0% pour la culture par les principaux candidats, mais on en parle aussi très peu. Il y a quand même un symptôme qui dépasse les États-Unis.
Vous la culture n'est pas. Parlez souvent de Bernard Arnault, donc on en parle.
Bernard Arnault ne s'est pas encore présenté aux élections.
Ça pourrait venir.
Il soutient quelqu'un ou pas,
pas.
Bon, je ne sais pas. Mais il y a un dossier, il me semble, sur la culture et sa place dans les pages de Libération. C'était ce week-end ou c'était
C'était lundi.
C'était lundi.
Si ça change quelque chose dans le débat, je suis pas certaine.
On n'est pas persuadé. Faire un état des lieux sur l'absence assez sidérale, en tout cas dans les débats les plus importants. Du mot culture. Alors, ils sont dans les programmes, hein, on peut y aller voir. Chacun, d'ailleurs, de façon assez classique, là, on les attend. Hein. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
Mais il y a une méconnaissance, je pense que ça soit de la part de Trump. Alors, chez Trump, c'est sidéral aussi, parce qu'il ne s'imagine même pas le rôle économique que peuvent jouer toutes ces structures. Alors, c'est ça qui est fou,
on
prend l'argument économique. Mais du rôle essentiel... que peuvent jouer tout un tas de structures. Enfin, il y a une méconnaissance de tout ça de la part des politiques, du rôle d'émancipation, enfin que sais-je, on va pas dérouler tous les lieux communs. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que on ne voit plus trop de rôle social à la culture aujourd'hui, ni même de rôle économique. Enfin, c'est-à-dire, en France, je pense qu'on en parle encore dans un contexte économique, du rôle économique. Voilà, je pense que les dirigeants s'y intéressent quand on parle de tourisme, quand on parle d'économie.
Ce qui est assez dramatique, par
ailleurs. Voilà. Et puis, aux États-Unis, c'est même plus abordé sous cet angle-là.
Mais s'il veut que l'Amérique soit grande à nouveau, il faut que ça passera par la culture.
Alors, c'est vrai que les grandes institutions, elles n'ont pas grand-chose à craindre non plus, parce qu'elles ont des conseils d'administration extrêmement riches qui mettront la main à la poche pour compenser un manque. Alors, peut-être pas pour les assurances, mais pour le reste. Bon, c'est pas non plus là que la programmation est la plus audacieuse, forcément.
Bon, y aura-t-il un épisode 3 ? Peut-être. Allez, parlons de la culture, des lieux qui proposent des choses et allons d'abord à la galerie Tornabuoni Art.
Oui, qui est en fait logé dans le passage de Retz à Paris. On dit bien Retz, hein, je pensais que sinon vous alliez me corriger. Alors, Alighiero Boetti, est-ce qu'il faut le présenter ?
Absolument.
Oui. Ce membre, je dirais le membre le plus rêveur et dandy de l'arte povera italien, mort en 1994, avec cette image de voyageur. C'est une grande exposition. C'est pas une exposition exhaustive, mais il y a vraiment énormément de choses qui permettent de découvrir son travail. Si jamais nos auditeurs ne connaissent pas son travail, ils ont sûrement vu, sans le savoir, ces grands planisphères brodés à la main, où chaque pays est figuré par son drapeau. Enfin, le drapeau vient s'imprimer dans l'espace du pays, avec une topographie parfois d'ailleurs, enfin une topométrie pardon, parfois un petit peu approximative. Voilà, ça c'est Alighiero Boetti. C'est pas lui qui les cousait. C'était des femmes afghanes qui les cousaient d'abord en Afghanistan, puis ensuite dans des camps de réfugiés au Pakistan. Il y avait tout un trajet, tout un parcours comme ça de l'œuvre commandée. Il l'a utilisé pour d'autres œuvres, notamment les très beaux tutto, qui veut dire tout, où en fait il y avait une infinité de figures, de personnages, d'objets brodés de toutes les couleurs, avec pour impératif que chacune des couleurs ne touche jamais sa semblable. Voilà, donc il faisait une commande et puis l'œuvre arrivait et il la découvrait. On trouve tout ça et même d'autres travaux tout aussi connus, les copertines et les couvertures de magazines qui étaient reproduites au crayon, les œuvres postales, des lettres envoyées toujours au même destinataire avec des timbres différents, parfois aux mauvaises adresses, jamais ouvertes, qui formaient ensuite tout ensemble des combinatoires comme ça, c'est poétique. Et les magnifiques, ces toiles-là valent, enfin, ce sont pas des toiles d'ailleurs, ces grandes œuvres valent à elles seules le détour par la galerie Tornabuoni. Ce sont les biro, qui étaient des grandes œuvres réalisées à coups de hachures au stylo bic. Et on peut pas s'en rendre compte quand on voit les reproductions, il faut vraiment les voir en vrai. Il y a un mouvement et un volume absolument extraordinaire. On est comme emporté. Il y en a notamment une très grande bleue qui s'appelle Mettere al mondo il mondo, mettre le monde dans le monde, une œuvre de 1975, qu'il faut absolument voir en vrai. Et toutes ces œuvres abordent, ça va vraiment du début de sa carrière jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière mappa, et même si c'est pas exhaustif, on voit quand même les grands thèmes, la combinatoire, le jeu, le voyage, la communication. C'est dans cette œuvre dont je parlais, les biro, on pouvait lire un texte un petit peu, pas caché, mais qu'il fallait recomposer parce qu'il y avait des colonnes de lettres et en face des petites, comme des petites virgules, des petites marques qui déroulaient de gauche à droite qui permettaient de lire un texte. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir tout ça maintenant? C'est une œuvre intéressante, c'est une œuvre qu'on connaît, enfin, dont on connaît pas forcément tous les recoins, mais qu'est-ce que ça fait de voir ça maintenant? Eh ben, c'est très étrange. On a le sentiment à la fois d'être devant une œuvre datée, pas au sens qu'elle a pris un coup de vieux, mais au sens qu'elle est vraiment marquée par son époque. Il y avait cette espèce d'ouverture au monde, de liberté, de déplacement, même si les déplacements se sont multipliés depuis, c'est pas forcément fait dans le même esprit. Il y avait cette liberté aussi de dire, ah ben moi je fais simplement des choses auxquelles personne n'a pensé avant moi, comme si tout ça c'était des premières fois. Il y a cet humour, cette fausse désinvolture. Il y a des raisons techniques aussi pour lesquelles on pourrait plus aller faire fabriquer des broderies en Afghanistan, évidemment, ni ouvrir une maison d'hôte comme il a pu le faire. Mais à côté de cette impression, enfin de cette nostalgie même que ça génère, il y a la grande actualité de ses intérêts et de son propos. Je parlais de communication, de médias aussi, toutes ces couvertures de magazines refaites qui à chaque fois traçaient une année. Il y a des dizaines et des dizaines de couvertures, toutes provenant de la même année. Là, en l'occurrence, c'est 1984. C'est un espèce de marqueur de temps, de marqueur de vie, circonscrit comme ça, donc encore une fois daté. Et pourtant, quelle actualité! Je trouve que de voir ça à l'heure d'Instagram aujourd'hui, ce ralentissement vis-à-vis de chaque œuvre, c'est assez vertigineux. Et il y a une dernière œuvre très très belle qui l'a composée toute sa vie, qui s'appelle le Mureau, qui peut dire le mur, qui était un assemblage de dessins de ses enfants, d'œuvres d'amis, de ses propres œuvres, de couvertures de journaux refaites, et qu'il modulait au cours de sa vie selon ses intérêts. Selon ses amitiés, il déplaçait les choses. Évidemment, l'œuvre s'est arrêtée quand il est mort. Et il se déploie dans toute l'expo un rapport au temps, les ralentissements, l'accélération, la durée, la nostalgie, qui en fait une expo très belle, voilà, à voir jusqu'au 8 avril chez Tornabuoni.
Chez Tornabuoni, Annick Guillaro, Boetti, Tornabuoni, art. Passage de Retz, puisqu'on dit bien Retz, Corinne Rondeau, vous confirmez, comme le cardinal. Michelangelo Sebastiano Londono,
si.
National Gallery.
Si. Alors, j'étais ravie de voir cette expo parce que j'aime beaucoup ce peintre, Sebastiano del Piombo, dont Michel-Ange a tout fait pour qu'on n'entende pas parler de lui. Parce qu'après la mort de Sebastiano del Piombo, Michel-Ange a dit les pires horreurs alors qu'ils ont eu une correspondance, ils ont été amis, en tout cas, et collaborateurs pendant une vingtaine d'années. Et donc, l'exposition de la National Gallery, l'exposition temporaire qui est présentée jusqu'en juin, montre, en fait, les collaborations très, 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 très tôt entre Michel-Ange et Sebastiano del Piombo, dès les années 1911. Donc, il arrive, je crois, à cette époque-là, à Rome, le Sebastiano.
1511, hein.
1511, bien sûr. Et il est vénitien. Donc, évidemment, on ne peint pas à Venise comme on peint à Florence, mon pain à Rome. Mais tout, à Rome se trouve le Raphaël, le Michel-Ange, et évidemment, ils s'associent entre eux pour détrôner le magnifique Raphaël, notamment la transfiguration qui se trouve à la Pinacothèque du Vatican, qui est un des plus beaux tableaux au monde, avec l'Assomption du Titien, mais qui se trouve à Venise, là, pour le coup. Et ils vont donc se mettre la main dans la main pour détrôner le Raphaël. Donc il y a une vraie déjà discussion, je dirais, de la manifestation, la représentation, les combats économiques, la visibilité des peintres. Alors voilà, c'est déjà à la Renaissance, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors, ce qui est bien dans cette exposition, c'est les dialogues et les collaborations. Le travail qui a été fait notamment par les conservateurs de la National Gallery pour voir en fait où est la main de Michel-Ange, par exemple dans la résurrection de Saint-Lazare, de Lazare. Vous avez le rapport entre la Pietà, la sculpture, qui est un plâtre de Michelangelo, en face d'une Pietà de Viterbe, qui est peinte par Sebastiano del Piombo, mais dont les mains ont été travaillées par Michelangelo, et notamment le buste, notamment la Vierge, qui est un des premiers tableaux nocturnes, par exemple, de l'histoire de la peinture, qui est un tableau incroyable, qu'il faut aller voir, notamment, normalement, il est à Rome, il est dans une église, bon, il est venu ici, jusque-là, c'est un bleu, un tissu bleu de la Vierge, comme ça, on a l'impression, le corps du Christ est vraiment séparé, c'est pas une Pietà, d'habitude, la Pietà, c'est la mère, la Vierge Marie porte son fils dans les bras et là, il est au sol et elle est les yeux elle lève les yeux vers la nuit, on va dire. Et il y a ce bleu comme ça qui se déverse et qui porte la nuit jusqu'à la mort du Christ. Vous avez d'autres tableaux qu'on n'a jamais vus, qu'on a recomposés, le Christ au limbe notamment. Et on voit bien que Sébastien Del Piombo récupère de Michel-Ange quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture, parce qu'il est présenté comme un peintre, Sébastien Del Piombo, et le sculpteur, c'est Michel-Ange, bien sûr. Mmh. Et le rapport de l'un à l'autre, et la main du dessinateur Michelangelo dans la peinture de Sébastien Del Piombo, c'est la manière donc effectivement dont le trait va venir plus ou moins se marquer, notamment dans le Saint-Lazare, la résurrection, vous avez un pied dans les nœuds de Lazare, qui est un tel travail du dessin, à travers un groupe de personnages, où on voit le Vénitien qui a travaillé avec des vêtements verts, et qui encercle comme ça les vêtements rouges et bleus du Christ et de la Vierge. Donc on a un chromatisme, et en même temps, il y a le corps qui est défini. Et on voit bien que le travail de Sébastien Del Piombo, peut-être dans cette relation à Michelangelo, c'est le premier plan, et la manière dont il fait sortir les corps. Et ça, c'est très net, mais il y avait déjà chez Sébastien Del Piombo, et c'est ça que moi je connaissais chez lui, dès 1506, vous avez par exemple le travail du tableau coupé en deux. Par exemple, vous avez une Judith, peut-être une Salomé, on ne sait pas, et derrière vous avez une fenêtre. Et chez Titien, parce qu'il y a eu aussi un dialogue, on va dire, mais plus lointain, il y a le rapport du tableau coupé en deux. C'est quelqu'un qui regarde et qui coupe le tableau, qui a quelque chose il est dans le tranchant. Et il y a un Saint Bartholoméo et un Saint Sébastien qui sont sur deux panneaux, et on voit qu'ils coupent quelque chose de l'espace, et en même temps, il y a quelque chose de l'espace qui joue dans le premier plan et l'arrière-plan. Et le travail de Michel-Ange lui apporte, je crois, la manière d'être au-devant. Et puis après, il y a les derniers tableaux qui sont absolument improbables, très abstraits, de Sébastien Del Piombo. Et il y a surtout deux grands Christ rédempteurs de Michelangelo, dont un vrai, en marbre. Et puis ensuite, on a un plâtre de 1975, mais la période du vrai, c'est 1915, c'est-à-dire 4 ans à peu près au premier Christ Rédempteur. Et vous avez une salle entière faite de dessins. Et donc, vous voyez qu'il y a un Sébastien Del Piombo qui a fait un Christ volant qui ressemble en fait au Christ de la chapelle Sixtine, mais à l'inverse, parce qu'ils se sont disputés sur la technique pour peindre la chapelle Sixtine. Et Michel-Ange lui a dit « Dégage !» Donc, c'est très violent. Non, mais c'est très beau. Il y a la correspondance, il y a les lettres des deux. Enfin, c'est absolument merveilleux.
Merveilleux. Alors, surtout Sebastiano et puis Michelangelo. Évidemment, le titre, c'est l'inverse, parce que celui qui est le plus connu des deux, c'est Michelangelo.
Ouais.
Il a gagné quand même. Mais c'est à la National Gallery de Londres jusqu'au 25 juin pour découvrir cette exposition qui vous a ravi.
Bien sûr.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le deuxième, normalement grand sujet, mais qui va avoir peu de minutes, de cette dispute, ce soir à l'exposition de Bertrand Lavie à la galerie Almine Reich, titrée A Cappella. Mmh. Alors quand on arrive dans la cour 64 rue de Turenne, que l'on voit les salles de la galerie totalement blanches, on se demande si l'exposition de Bertrand Lavier est bien accrochée. Alors ça, c'est la première facétie de l'artiste qui a posé au centre de cette salle qu'on voit de l'extérieur une reproduction de la Vénus d'Amiens, datée de 23 000 ans, et donc une des premières sculptures de la main de l'homme, mais ici considérablement agrandie, passant donc des 15 cm de l'original à près de 2 mètres pour la version en plâtre imaginée par Lavier, mais quand même est passée au centre de la salle, et que la salle est totalement vide autour, on a l'impression que la salle elle-même est vide. La sculpture, on va le voir, elle occupe une place importante dans cette exposition, y compris, bien sûr, que nous sommes en présence de peinture, sculpture, greffe. On n'oublie pas qu'il a fait l'école d'horticulture, Bertrand Lavier, et il est le premier à ne pas l'oublier. Elisabeth Franck Dumas, quelques impressions sur cette exposition à la Galerie Alminresch.
Écoutez, moi j'étais plutôt ravie de retrouver Bertrand Lavier. Il y a là la poursuite de séries qu'on connaît déjà, les séries Walt Disney, les monochromes. Je trouve l'idée très séduisante que des séries qu'on a commencées il y a plusieurs décennies, et ben on continue et on ne refait pas la même chose. Il y a un peu de variation. On travaille. Il y a des choses à améliorer, à poursuivre. Je suis assez sensible à cette idée. Après, avant de parler de l'humour, des jeux entre les catégories dont il est coutumier, de toutes ces jeux de référents aussi. Qu'est-ce qu'un paysage, etc. Ben, moi, je commencerai juste avec le plaisir qu'on a à voir ces œuvres, notamment ces trois monochromes, que je trouve absolument super. Superbe. Il y a une jouissance là à les voir. On plonge au cœur du médium. En fait, ce sont deux médias puisqu'il s'agit de photos et de peinture. Je vais expliquer rapidement. C'est une photo de traces de peinture au pinceau, monochrome. Il y a un très beau vert. Le vert permanent s'appelle-t-il, un jaune cadmium et un bleu cobalt. Je sais pas pourquoi c'est le vert qui m'a surtout fait de l'effet. Et donc on voit cette photo. Alors il faut s'approcher. Si on ne connaît pas le travail de Bertrand Lavier, à mon avis, comme là, c'est fait de manière un peu plus délicate que ce à quoi on est habitué. Peut-être que de loin, on ne se rend pas compte qu'il y a une photo en dessous. Et puis on s'approche et en fait, on se rend compte que il y a deux choses là. Il y a cette surface hyper réfléchissante. À tous les sens du terme, puisqu'on nous demande de réfléchir justement à ce qui est de la peinture, à ce qui est de la photo. Il y a cette surface très réfléchissante de photo et par-dessus des grandes traces de peinture verte. Il y a le plaisir de la matière et le plaisir du jeu. Et dans le jeu, j'entends pas seulement le ludique, mais le jeu, justement, l'espace entre la peinture et la photo. On retrouve la série des Walt Disney et puis ces tableaux. Alors, je ne sais pas, moi, je les avais jamais vus. Je ne sais pas si c'est une série dont on a déjà pu voir...
La signalisation.
Oui, la signalisation. Mmh. Les panneaux de signalisation autoroutier. Alors, de quoi s'agit-il? Il a peint par-dessus, ou comme s'il avait peint par-dessus, ou reproduit, pareil, à gros coups de pinceau, sur ces panneaux de signalisation qu'on voit quand on roule à 100 km/h sur l'autoroute, ces petits panneaux marrons qui bordent tous les autoroutes de France, supposés attirer l'attention du voyageur sur un paysage. Alors là, par exemple, on a paysage aixois. Donc c'est la reproduction d'un paysage qui est lui-même reproduit, cadré, un petit peu artificiel, qui est censé être la quintessence du paysage aixois. Et en même temps, il faut être efficace parce qu'on a une demi-seconde pour les voir, ou presque. Alors c'est supposé être la quintessence de ce paysage aixois, c'est-à-dire qui nous pointe en fait vers le hors-cadre. Toute la fonction de ce panneau, ben, c'est de nous dire de regarder ailleurs, de pas regarder le panneau, mais de regarder le paysage. Et pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce paysage? Parce qu'il a été peint, en l'occurrence, par Cézanne.
La Sainte Victoire.
Et alors là, on devine. D'ailleurs, je me suis demandé, là, ce qui est amusant, c'est que, ben, évidemment, ça pointe vers rien, puisqu'il n'y a pas de paysage aixois. Ça ne pointe que vers l'intérieur du tableau. Et je me suis même demandé, en voyant cette grosse peinture par-dessus, si ça existait vraiment. Si ce panneau-là existe vraiment ou pas. J'ai essayé de chercher. J'étais pas sûre parce qu'il y a une telle déterritorialisation, j'utilise un gros mot, qui fait qu'en fait, on ne fait plus attention qu'à la peinture. Et justement, il nous rappelle ce que c'est qu'un paysage, ce qui est à l'origine de tout le processus, que je trouve assez amusant et jouissif. Et puis, vous parliez de cette sculpture, qui est également très belle, cette recomposition d'une vierge trouvée enfin, c'est pas une vierge...
Vénus, la Vénus d'Amiens.
La Vénus d'Amiens, pas tout à fait la même chose, qu'on a retrouvée en morceaux, qui a 23 000 ans, à Renoncourt. Alors, elle a été rassemblée, normalement, elle doit faire 15 cm. Et là, elle fait près de 2 mètres, et elle est en plâtre. Elle est entièrement en plâtre. Alors, dans le texte tout à fait judicieux, une fois n'est pas coutume, il faut le signaler, de Bernard Marcadet, Non, là, je peux pas dire ça pour Bernard Marcadet, mais pour le genre de texte, pardon, qu'on vous donne.
Pourrait y avoir ambiguïté.
En général, pardon, non, surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À l'entrée des galeries, il signale évidemment que le plâtre, c'est ce qu'on utilise dans les écoles d'art. Et donc là, cette sculpture qu'on a découverte en morceaux, et qu'on vient de découvrir il y a à peine 3 ans, hop, rentre tout à coup à la première place dans l'histoire de l'art, sur son socle. On regarde et on remarque ce grand socle blanc. C'est une sculpture, je trouve, très belle, très, très, très satisfaisante, encore une fois. Voilà. Je trouve que il y a de l'humour, mais il y a aussi la qualité esthétique de ces œuvres.
Corinne Rondeau?
Bah écoutez, tout est dit, sauf que moi, je n'aime pas. Voilà, j'ai trouvé ça, on peut se réjouir que ça continue. Je trouve qu'on passe des jeux de forme au jeu de l'esprit, évidemment. On ne regrette pas la finesse d'esprit de Bertrand Lavier, ça c'est indéniable. Je trouve que par ailleurs, l'idée de greffer ou d'être dans l'hybride ou même d'appeler un paysage au-delà du paysage, puisque c'est ça, c'est toujours une manière de rappeler que ce que vous avez devant les yeux est aussi chercher... l'histoire de l'art, puisqu'il est dans les référents, vous l'avez dit, Elisabeth, c'est une manière de dire, je mets sur le devant une scène de l'art qui n'est peut-être pas l'art lui-même. Et donc, c'est dans cette ambiguïté-là qu'il est intéressant, Bernard Lavier, mais ça fait quand même un sacré bout de temps, et que c'est vrai que l'exposition que j'avais trouvée extrêmement fraîche au Centre Pompidou m'a laissé un peu, enfin là, ce qui a été montré, je l'ai trouvé, voilà, c'est Bertrand Lavier, c'est le mec qu'on connaît, il en a sous la godasse, lui aussi, il sait faire son métier, il le fait bien, il a toujours autant d'esprit et de finesse, sauf que peut-être j'étais pas dans un jour où j'avais envie de revoir ce que je savais de lui. Voilà.
Moi, j'y ai vu d'autres choses cette fois-ci.
Je n'en doute pas, Charles. Non, je vous laisse la parole.
Non, mais il y a plus de temps pour avoir la parole parce que le dégagement sur Orsay nous a pris le temps, mais qui était tout à fait nécessaire. On n'a pas parlé des inclusions et des greffes entre les phares d'automobile et les colonnes fort anciennes. Allez voir par vous-même cette exposition à la galerie Almin Resch à Paris. Elle s'appelle A Cappella. Ce sont des œuvres de Bertrand Lavier. On peut les voir jusqu'au 15 avril. Et on conclut cette émission avec le jeu de la dispute. Un rappel du jeu d'hier au soir. Lucille Como pour en connaître la réponse.
Dans le film Voyage au cœur du cinéma français, Bertrand Tavernier désigne celui qui est selon lui le plus grand acteur français. De qui s'agit-il? Et la réponse est Jean Gabin.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Images à la Sauvette, une exposition dont on a parlé jusqu'au 23 avril à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. La question:
Cartier-Bresson prend les clichés de ce qui constituera son premier reportage en 1930. Dans quel pays voyage-t-il alors?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Rosemont et Christophe Comte. À notre affiche Sound Breaking, la grande aventure de la musique enregistrée. C'est une série documentaire qu'on peut trouver en coffret DVD chez Arte Éditions. Nous parlerons de l'album Spirit de Depeche Mode et de celui de Juliette Armanet qui s'intitule lui Petite Amie. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.